Merci beaucoup Alexandra Duboucheron, vous nous rejoignez bien sûr d'ici une heure et j'espère bien que vous allez rester parce que ce soir c'est une occasion unique, unique d'entendre un groupe qui fut unique dans tous les sens du terme. Voici 50 ans déjà, il s'est imposé dans le paysage musical européen et a laissé une trace indélébile parce que sa musique ne ressemblait strictement à aucune autre. Entre jazz, rock, musique de piano classique, chorale, symphonique parfois, réminiscence de chants lyriques, ambiance sardonique, parfois même de cabaret berlinois, ce groupe sans guitariste et sans bassiste, c'est rarissime, s'appelait Van der Graaf Generator. On ne peut même pas dire qu'il a d'héritier, il n'a jamais été remplacé. Et l'édition d'un coffret qui regroupe tous ses albums des années 70 nous offre l'occasion ce soir de faire réémerger un continent musical englouti, une Atlantide de ce qu'on a pu appeler la musique progressive, entre guillemets, soit prospective ou futuriste. Un futurisme apocalyptique qui n'a rien perdu de son actualité, au contraire.
You
Alors, le premier titre de cette soirée spéciale consacrée au groupe anglais Van der Graaf Generator, dont un coffret qui vient tout juste de paraître célèbre les grandes années 1970 à 1978. Alors, citer le nom de ce groupe Van der Graaf Generator à des garçons, surtout des garçons je dois dire, qui étaient en âge d'être lycéens entre les années 70 et 75, et vous verrez chez certains comme parmi les membres d'une confrérie occulte, les yeux brillaient. Van der Graaf, comme on disait familièrement, c'était comment dire ? C'était à la fois les Doors, Léo Ferré et David Bowie avant qu'il existe. Parce qu'il faut quand même le rappeler maintenant que tout ce monde-là est au musée. Dans les années 71-72, très peu d'amateurs de musique nouvelle, de pop musique, comme on disait alors, prenaient David Bowie au sérieux. Beaucoup le percevaient comme une attraction parmi d'autres, dans un cirque décadent qui faisait rigoler, ricaner en tout cas. Tandis que Van der Graaf, alors là, c'était sérieux, c'était intense, c'était un voyage existentiel plus encore que interplanétaire. Oui, c'était pas cosmique ou planant comme Pink Floyd, ça ne vous entraînait pas vers des rêves d'engins interstellaires, de voyages entre les planètes, d'odyssées de l'espace, d'autres mondes habités. Non, pas du tout. Van der Graaf, c'était un monde qui ressemblait au nôtre, mais en plus fou, plus sombre, plus cauchemardesque. C'était comme les tableaux de Jérôme Bosch, les contes de Edgar Poe, les films de Ken Russell, par le mystère, la démesure, une sorte d'emphase fantasmagorique, Van der Graaf Generator nous conduisait de l'enfance vers les tourments effroyables de l'adolescence, prélude au grand effroi du monde adulte. Alors j'en parle avec émotion, je peux pas m'en empêcher parce que vers l'âge de 13-14 ans, ce groupe m'a fasciné, on peut même dire qu'il m'a obsédé, il a fait mon éducation musicale au même titre que King Crimson ou Gong. Alors autant de groupes, hein, selon tout un éventail qui allait du sérieux au loufoque, qui ne se cantonnait pas à un genre de musique, mais qui télescopait un peu, si vous voulez, comme dans un accélérateur de particules, toutes les musiques, parfois dans tous les sens, et même, on peut le dire, parfois en dépit du bon sens, pour créer de nouvelles combinaisons d'atomes, des sculptures vivantes, plus vraies que le monde vivant naturel, que avant eux, eh bien, personne n'avait même jamais osé imaginer. Alors je sais qu'il existe en France une communauté de passionnés qui vénère encore Van der Graaf Generator comme d'autres grands noms de la musique dite progressive. Alors eux, bien sûr, c'est inutile que je cherche à les convaincre, ils le sont déjà convaincus. En revanche, il existe beaucoup d'amateurs de rock pour lesquels, mettons, le Velvet Underground et le punk rock sont l'alpha et l'oméga. Alors je leur donne pas tort, mais c'est eux que je voudrais convaincre ce soir en leur faisant sentir que Van der Graaf Generator est bien au-delà du style un peu pompeux, emphatique de la musique dite progressive. Vous l'entendrez, c'est indéniable, ce groupe a ouvert la voie à David Bowie, et même, je suis pas seul à l'affirmer, à une certaine façon de chanter propre au punk rock typiquement anglais, et en particulier à Johnny Rotten des Sex Pistols, futur John Lydon. Voici tout de suite un titre d'anthologie signé Van der Graaf Generator, Man Hug, où ses paroles résonnent encore aujourd'hui avec la même intensité qu'il y a un demi-siècle. How can I be free? How can I get help? Am I really me? Am I someone else? Comment être libre? Comment me faire aider? Suis-je vraiment moi? Suis-je quelqu'un d'autre? On a tous vécu ça. The killer lives.
of my youth, and solemn waiting old man in the gables of the roof, he tells me thank you.
I hope that I not
Mishka Asayasachi.
My name, but it sounds unreal. West is where all days will someday end. Where the colors turn from gray to gold, and you can be with the friends. And light flakes the golden clouds above. West is Mike and Susie, West is where I love.
Signé Van der Graaf Generator, Refugees, extrait du premier album du groupe paru en 1970 et qui s'appelait The Least We Can Do Is Wave to Each Other, un titre poétique ouvert toutes les interprétations. Le moins qu'on puisse faire, c'est se faire signe l'un à l'autre. Alors musicalement, il y avait quelque chose, vous l'avez entendu, dans la richesse orchestrale qui pouvait évoquer un groupe comme Procol Harum, puis aussi quelque chose de Pink Floyd. Et puis, il y a la belle voix haute du chanteur Peter Hammill, auquel d'ailleurs D'ailleurs, on a comparé à ses débuts Peter Gabriel au sein de Genesis, hein, le premier Genesis qui publiait ses albums chez la même compagnie de disques, Charisma, sans obtenir encore, avant 72, le même succès que Van de Graaff Generator, qui était beaucoup plus coté, beaucoup plus estimé, voire adulé. Alors, il est temps, sans doute, de vous dire d'où a surgi cet ovni musical. Eh bien, très prosaïquement, de l'université de Manchester, hein, au nord de l'Angleterre. Tout part d'un ancien élève des jésuites, Peter Hamill, formé à la chorale et qui étudiait à la fois les lettres et les sciences et qui était un passionné de science-fiction et d'occultisme. C'est lui qui imagine ce nom de Van de Graaff Generator d'après le nom d'un générateur de courant électrostatique qu'avait inventé un physicien américain. Il finit par agréger autour de lui un jeune organiste d'église, Hugh Benton, un batteur formé au jazz, Guy Evans, et puis, et j'allais dire surtout parce que c'était vraiment la seconde star du groupe, un saxophoniste passionné de jazz moderne, David Jackson. Alors je me rappelle l'avoir vu sur scène adolescent, il m'impressionnait comme un personnage maléfique, il était grand, tout maigre, l'air sardonique, coiffé d'une casquette en cuir noir, et il soufflait parfois dans deux saxophones à la fois. C'était comme vraiment un héros de science-fiction. C'était pas un guitar-héros, mais un sax-héros. Alors je sais bien qu'on ne dit pas ça, mais enfin voilà, j'ai bien le droit de l'inventer. Alors voilà, là j'ai fini mon énumération et vous vous êtes dit sûrement mais il n'y a pas de guitariste, où est le bassiste? Eh bien il n'y en avait pas. Le bassiste, il y en a eu un au début, il est vite parti, il n'en avait pas besoin, puisque comme Ray Manzarek au sein des Doors, Hugh Benton assurait les parties de basse grâce à son pédalier. Il faut préciser que son orgue Farfisa était équipé d'un vibrato pour créer un effet cathédrale, d'un boîtier fuzz et qu'il était amplifié par pas moins de 6 amplis Marshall. Et de guitariste, il n'y en avait pas. Peter Hamill chantait, il se mettait parfois au piano et c'était absolument unique et captivant. Alors, Van de Graaff Generator a eu deux vies, assez brèves, enfin 3 en tout, hein, parce qu'au début du nouveau siècle, le groupe s'est réuni à nouveau, mais enfin ça je mets ça entre parenthèses. Disons, une première phase entre 70 et 72, puis une éclipse parce que Peter Hamill avait décidé de s'embarquer dans une carrière en solo tout à fait captivante. À ce moment-là, on aurait plus parié sur lui que sur Bowie, ça c'est certain. Et je reviendrai certainement sur la carrière en solo de Peter Hamill parce qu'elle est tout à fait passionnante. Et puis, le groupe a eu une seconde vie entre 1975 et 78 où le groupe a continué à passionner les publics d'Europe continentale, en France et en particulier en Italie, alors qu'il quittait les premiers plans en Angleterre où, il faut se le rappeler, le mouvement punk et la New Wave ont tout balayé sur leur passage. Il y a eu un certain décalage entre ça et ce qui s'est passé en Europe continentale. Pour autant, la voix unique en son genre de Peter Hamill, qui savait être tour à tour lyrique et sardonique, a influencé en profondeur Johnny Rotten au sein des Sex Pistols. D'ailleurs, celui-ci l'a reconnu. Il y avait également Howard Devoto du groupe Magazine. Alors ça, c'est absolument flagrant. Et aussi Mark Almond, hein, le chanteur de Soft Cell, pour le versant lyrique, un peu, si vous voulez, le côté enfant de cœur qui passe du côté obscur de la force. Voici un titre signé Van de Graaff, extrait de l'album Still Life et publié en 76, qui s'appelait La Rossa, un témoignage tout à fait surprenant d'une sorte de métamorphose douloureuse de la musique dite progressive vers les climats oppressants de l'après-punk. La chanson s'appelle La Rossa.
Sanctuary and nourishment, encouragement and sanctity, and more. The streets seem very crowded. I put on my bravest guise. I know you know that I am acting. I can see I'm
behind words, fearing a deeper flame exists, faintly aware of the passage of opportunity.
Very Good Trip sur France Inter.
Document tout à fait étonnant, une version en public d'une chanson que Peter Hammill avait publiée en solo, Nader's Big Chance, en 1975, où il adoptait l'identité théâtrale, imaginaire de Ricky Nader, sorte d'apprenti rockstar adolescente, pleine de rage et de fureur, un personnage qui, d'une certaine façon, a anticipé la violence du mouvement punk anglais. Et dans cette version en public, enregistrée avec Van der Graaf en 78 au Marquee Club de Londres, eh bien l'évidence de l'influence vocale de Peter Hammill sur le style de chant punk anglais est absolument manifeste. On peut découvrir cette version dans le coffret dont je vous ai parlé, The Charisma Years, 70-78, signé donc Van der Graaf Generator. Voilà, une heure, c'est frustrant pour un tel monument, que dis-je, un tel continent, mais voilà, c'est la règle, et je m'y soumets. Merci, et à lundi prochain.